Bonjour à toutes et à tous. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, à 18h sur JetFM 91.2, vous allez pouvoir découvrir la série radiophonique « Pendant que les psys causent », une série de témoignages en 10 épisodes autour des troubles psychiques, portée par le groupe radio du GEM, le Nouveau Cap de Nantes. Les groupes d'entraide mutuelle sont des associations en autogestion à destination des personnes souffrant de troubles psychiques. Ces établissements ont vu le jour en 2005. Ce ne sont pas des lieux de soins, mais plutôt des lieux de rencontre, des lieux où on fait, on pratique, on discute. Et finalement, quelque part, qui soigne. Pendant un an, Emmanuel, Julie, Laurent, Morgane, Pascal et Sacha, accompagnés par Julie Ozou, se sont réunis. Ils et elles ont pensé, écrit et construit cette série. De 25 à 72 ans, ce sont 21 personnes qui témoignent. Des tranches de vie pour écouter et pour mieux comprendre. Des premiers signes des troubles jusqu'au possible rétablissement, en passant par le rapport à la famille, au travail, au traitement, à l'hospitalisation. Des paroles intimes et sensibles pour changer, par l'écoute, son regard. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter le 3e épisode sur l'hospitalisation et le 4e sur les traitements médicamenteux.
Au départ, j'étais chez les amis, je me suis retrouvé à faire une crise, ils ont appelé les pompiers.
Je me rappelle que pendant le trajet, je transformais tout ce que disait la radio contre moi, en fait, j'entendais des voix.
Je suis resté 3 mois, de juin à septembre.
C'est l'heure des médicaments.
Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison.
On reconnaît une société à la façon dont on traite les fous.
Pendant que les psychoses...
Pendant que les psychoses...
Je deviens un patient.
Il n'y a pas la folie d'un côté, puis l'intelligence de l'autre. Un type qui n'est pas fou du tout, c'est plutôt louche. C'est une somme de folie plus grave.
Une série du GEM, le Nouveau Cap. Groupe d'entraide mutuelle.
Épisode 3.
Les psychiatres y règnent en maître. On y arrive parce qu'on a perdu le sens de distance avec ce qui s'appelle communément la folie. On se retrouve enfermé contre son gré à l'hôpital psychiatrique. On fait une nouvelle tentative de suicide entre les murs, vu que c'est pas possible d'être arrivé là et qu'il faut couper avec quelque chose de tranchant. Le fil qui te tient dans ces lieux où les gens ont des yeux éclairés par une force douce et dérangée. Les portes sont fermées à clé par les infirmiers qui font office de geôliers. Personne ne rentre ni ne sort sans la permission des hommes en blouse blanche. Ce sont les gardiens du repos des malades, parce qu'ici demeure un lieu de tranquillité. Les gens sont soignés par le silence. Personne ne joue de guitare, mais on peut hurler ou frapper avec son pied la tête d'un sale type dans le fumoir. De toute façon, une fois dedans, vous sortirez quand on vous le dira. Vous serez resté 3 mois allongé, pris par vos tourments ou à cloper avec les autres patients, qui sont devenus des amis, qui disparaîtront ou vous rappelleront une fois dehors. Julie, Pascal et Pix en sont sortis. Samson sortait.
Quand on arrive à l'hôpital, tout de suite 2-3 piqûres dans les fesses. Hein. 3 minutes, 4 minutes après on dort. Hein. Puis c'est pas des petites doses, on l'a dit, hein, pour faire dormir les gens aussitôt. Quand je me suis réveillé, comme à l'époque il y avait des enlèvements au Liban, tout ça, j'ai pensé que j'avais été enlevé parce que je voyais des murs en face de moi. Des fenêtres, tout, me disait où je suis, j'avais aucune idée que je pouvais être à l'hôpital. Et après, le lendemain matin, j'ai quand même compris parce que j'ai vu un infirmier qui m'apportait à manger.
Déjà, je suis arrivée tard le soir et tout le monde dormait déjà. Et moi, je suis arrivée, je me demandais ce que je faisais là. Et quand le médecin psychiatre est arrivé, je me suis dit, oh là là, comment ça va se passer et tout. Enfin, ouais, j'étais hyper inquiète.
On m'a bourré de médoc pour faire passer le mal-être. Mon état a fait qu'empirer. J'étais plutôt assommé quoi, par mon mal-être, quoi, par la solitude, la fatigue, l'angoisse. Quoi. Dès que je suis arrivé, les premières semaines, j'ai demandé à sortir. En fait. Et je pouvais sortir qu'avec des infirmiers, infirmières. Donc ça en renforçait encore plus mon enfermement. Je le vivais encore plus comme une prison. Donc quand j'ai eu des permissions de sortie, au moment de revenir à l'hôpital, j'ai fait une tentative de suicide en fait.
J'étais jeune, quoi, donc j'ai super mal vécu. Je voyais pas mes sœurs, je voyais pas ma mère, je voyais pas ce cocon familial que j'avais aussi autour de moi, quoi. Donc, c'est compliqué, tu te retrouves dans une chambre d'hôpital et t'attends que les jours y passent. À 15 ans, quand on dit, des schizophrènes, enfin, surtout que mon premier psychiatre, la première fois qu'il a vu ma mère, il a dit, votre fille, elle sortira jamais des hôpitaux psychiatriques, elle restera toujours enfermée dans sa cellule et dans sa chambre d'isolement et elle sortira jamais, quoi. Donc, je pense que quand une maman entend ça, ça fait pas forcément plaisir, mais quand moi j'entends ça aussi à côté, je me dis, c'est un peu... Il manquait cruellement de tact et cruellement d'humanité, en fait. Hein. C'est pas du tout vrai, la preuve, maintenant je suis plus en psychiatrie, donc oui, j'ai prouvé le contraire.
C'était un hôpital en pleine campagne, hein. C'était pas du tout en ville, c'était isolé vraiment en campagne, il y avait des jardins autour... C'était voulu à l'époque comme lieu de soins, mais depuis il a été détruit. Hein. On essuyait la vaisselle, on la lavait, on mettait la table, des choses comme ça. Quoi. Il faisait participer les gens. Quoi. Mais je n'ai pas retrouvé ça ailleurs, nulle part. Hein. Et je me rappelle aussi, c'est ça, il y a 20 ans, on avait une infirmière référente qui nous posait des questions tous les jours sur comment ça allait. On faisait des groupes de parole. Est-ce que vous voulez venir discuter d'un problème? Oui, j'arrive. 20 personnes comme ça autour d'une table, chacun donnait son avis. S'est abandonné parce que j'ai jamais retrouvé ça après. Hein.
Je me levais, je prenais mes médicaments, je déjeunais, j'essayais de lire dans ma chambre, j'avais du mal à lire, c'était compliqué, mais j'avais pas beaucoup de contact avec les autres. Quoi.
Au début, j'avais énormément de traitements. Je me rappelle, je dormais énormément, je dormais toute la journée, tout, c'était pas simple, j'aurais même pu réfléchir. Et même la première fois que j'ai revu ma sœur, je tremblais tellement que j'arrivais même pas à mettre une veste. Et du coup, ma sœur qui a vu ça, elle était un peu triste de la situation. Quoi. Ouais.
Je pense que ce qui faisait mal aux gens, c'était de me voir comme ça, en fait. Surtout quand on venait me voir, ma famille et tout passait pour prendre des nouvelles et que je ressemblais de plus en plus à un zombie, quoi. J'ai l'impression de devenir un légume. Au fur et à mesure que l'hospitalisation avançait, c'était ça, quoi.
Et finalement, au fil du temps, vu que j'allais un peu, ça se stabilisait un petit peu, du coup, je commençais à diminuer les traitements un petit peu. Les infirmiers, ils étaient super, j'ai de la chance. Ils ont été très soutenants, que ce soit pour ma famille, pour moi, enfin voilà, ils ont été super. Au début, je pensais qu'ils étaient un peu contre moi, ça, mais en fait, pas du tout. Et au contraire, ils m'ont énormément soutenue, même face aux médecins. Et quand ils ne voulaient pas me donner de permission ou choses comme ça, ils sont mis vraiment en travers du médecin.
L'hôpital ne m'a pas du tout calmé, en fait. D'être coupé, en fait, de mon milieu. Mais j'avais plus cette présence-là qui me rassurait, en fait. Ça a été compliqué. Et au bout d'un moment, j'avais plus envie d'être honnête. Donc je disais que ça allait. Alors que ça va pas, je me sens seul, je n'ai aucune affinité avec les gens, j'ai qu'une envie, c'est de sortir. À un moment donné, je disais que ça allait. Voilà. J'ai un peu joué la comédie pour sortir le plus vite possible. Quoi.
Il y a différentes pathologies. Hein. Je voyais bien qu'il y avait des gens qui n'avaient pas la même pathologie que moi. Hein. Il y en avait qui étaient là toute l'année, hein, qui étaient mélangés avec nous, qui ne sortaient jamais de l'hôpital. Hein. Et ce qui est triste aussi, c'est quand on voit des gens partir.
Il y avait des enfants donc assez jeunes. Il y en avait qui avaient 2 ans, il y en avait qui avaient 10 ans, enfin voilà, il y avait tous les âges. Et moi, quand je suis arrivée là-dedans, je me suis dit, oula, qu'est-ce que je fais là? Il y en a certains qui ne parlaient pas ou qui avaient des grosses difficultés. D'un côté, c'était rassurant aussi de me dire que je n'étais pas toute seule à vivre des choses, à souffrir de troubles psychiques aussi, quoi, de ces maladies-là. Il n'y avait aucune activité, en fait, quasiment aucune. On jouait aux cartes avec les autres patients. Enfin, on essayait de s'occuper, mais on regardait la télé. Bien sûr que des activités, ça aurait été bien, quoi.
On laissait les gens à rien faire, quoi. Ils erraient, plus ou moins, quoi. C'est ce que j'ai connu quand j'étais à Argenteuil. Hein. Les gens erraient dans une salle. Son art est rentré dans l'hôpital depuis 20 ans. Mais avant, il n'était pas question de faire du modelage ou je ne sais rien, du dessin, ou aller se promener. Puis en plus, comme on est entre malades, pour les discussions, ce n'est pas terrible. Hein. En plus, c'est des gens qu'on n'a jamais vus. Hein. On ne sait pas comment aborder la conversation. Hein.
Je je savais pas quand est-ce que j'allais sortir de l'hôpital. Et ça, je pense que c'est une grosse contrainte parce que, enfin, c'est un peu frustrant de pas savoir, de pas avoir de date, puis de se dire bon, quand est-ce que j'irai mieux, quand est-ce que il faut, enfin, c'est ça aussi.
C'était ça qui était inquiétant, quoi. C'était de pas avoir de date. Je me disais, mais je vais rester combien de temps, quoi. Enfin, on me donnait de plus en plus de médicaments. Du coup, j'avais l'impression d'être un zombie, quoi. D'être complètement, de plus avoir d'émotions, de plus avoir de. Je l'ai vécu un peu comme un abus de pouvoir, en fait. Je ne l'ai pas du tout vécu comme du conseil, un accompagnement, une aide.
Ce qui m'a aidé à m'en sortir, c'est ma famille surtout, mais aussi le fait que j'avais envie de retrouver une vie à la normale, en fait. De pouvoir m'épanouir aussi dans la vie. Et voilà, avec la maladie, c'est sûr que le coma après ne sera jamais comme le coma avant, mais je crois que l'acceptation a été assez dure pour moi et... J'ai cheminé dessus, mais quand t'as 15 ans et qu'on te dit tu pourras faire ceci, tu pourras faire cela, tu pourras plus aller en cours, enfin voilà, c'est quand même c'est moi ce que j'ai toujours voulu retourner en cours et au final j'ai pas trop réussi à finir ma scolarité, mais je suis un peu retournée au lycée un petit peu, mais ça c'était chaotique quoi, enfin j'avais un planning spécial, enfin parce que j'étais très fatiguée par les traitements et du coup je pense que les traitements m'ont complètement cassée et du coup j'ai lâché tout et voilà, j'ai arrêté la scolarité.
Ils étaient prêts à me faire une sismo. C'est des électrochocs. C'est quand on est très déprimé pour justement stimuler de nouveau la personne. On lui fait faire des électrochocs. Et donc quand je suis arrivé en sismothérapie, j'ai discuté avec un médecin. Donc j'étais prêt à faire l'opération. Et il m'a demandé ce que je voulais faire cet été. Et cet été, j'ai dit, j'aimerais bien partir à la montagne et tout. Et il a vu que j'avais encore du peps, du désir, que j'avais envie. Et du coup, la sismo n'a pas eu lieu.
En pédopsychiatrie, je régressais un peu. J'avais tendance à devenir un peu plus, moins autonome. Et du coup, après, quand j'étais chez les adolescents, ça a été différent. Mais ça s'est super mal passé chez les adolescents. Donc, ouais. Je suis habituée à avoir des psychiatres un peu... Un peu, pas très professionnel, je dirais, ouais. Quand j'étais hospitalisée chez les adolescents, du coup, j'ai fait j'ai dû faire facilement un mois et demi d'isolement.
Un mois, je suis en isolement. Ouais. Du jour au lendemain, accompagnez-nous, puis ils nous mettent là. Hein. Ils donnent pas de détails. Hein. On a maté dans le noir, on vient pour nous doucher, mais on voit personne de la journée. Hein. On n'a aucun repère, on est complètement isolé. Hein.
T'as qu'un matelas au sol, il n'y avait même pas un seau pour uriner. J'avais uriné dans la cellule, il m'avait disputé, enfin, c'était compliqué quoi.
C'est vraiment anxiogène, hein. On est tout seul, on n'a aucun repère temporel, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de pendule, il n'y a rien, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien.
Rien pour t'occuper. Donc, du coup, le temps paraît hyper long, enfin, t'as l'impression que les journées, c'est trois journées en une. C'est juste pas possible en fait. Même pour les repas, t'as pas le droit de sortir de manger avec les autres, enfin, c'est. Il t'apporte un plateau en chambre et puis il reste avec toi parce que il y a le couteau donc pour manger donc et l'infirmier reste le temps que tu manges et il discute même pas, enfin il prend même pas le temps de discuter et après il récupère le plateau et il s'en va puis tu restes toute la journée dans ta chambre d'isolement quoi. Je pense pas que c'était une sanction, je pense que quand t'étais pas bien t'allais en cellule d'isolement alors que au contraire ça te rend encore moins bien quoi donc ouais. C'est pas humain ces conditions là, t'as même pas une fenêtre, t'as juste quatre murs et un matelas au sol.
C'est pas comme ça qu'on peut s'en sortir hein. J'ai dit à mon médecin, c'est pas un lieu de soin pour moi, chambre d'isolement. Il m'a répondu, c'est parce qu'on n'a pas assez de personnel pour s'occuper des gens.
J'ai pas pensé suicidaire en isolement, mais après, quand je suis sortie de la cellule d'isolement, ça faisait trop bizarre parce que le fait de revoir des gens, de remanger avec des gens, quand t'es coupé du monde pendant un mois et demi, après, quand tu retournes avec les autres, ça fait un décalage en fait. T'as l'impression de ne plus être un être humain.
Quand on est dans un local à l'hôpital et qu'on bouge pas, je vois pas comment la santé peut s'améliorer. Hein. Parce que qu'est-ce qu'on a comme rapport ? Des murs, des gens malades autour de soi, des médicaments. Parce qu'après, on va parler des problèmes des gens en prison. C'est la même chose, hein ?
Du coup, ma mère, elle m'a sorti contre avis médical des adolescents. Donc là, ça a été un peu en bas de combat.
J'avais le sentiment que l'institution prenait le dessus. On suivait, quoi. Il décidait un peu pour moi et la famille. Par cette fragilité, on était un peu plus vulnérables. J'avais envie d'autre chose et je pense qu'on aurait pu faire autrement. Ouais. Avec le recul, avec le temps. même si je reconnais que c'est pas toujours facile pour un psychiatre ou une psychiatre de juger ce qui va pas, si la personne est en crise, si elle peut aller encore plus mal, si elle peut se faire du mal. Enfin, je sais que c'est compliqué, mais c'est important aussi d'être à l'écoute du désir de la personne, quoi. J'en garde vraiment un très très mauvais souvenir de mon hospitalisation. Même s'il y avait une crise à gérer, je pense qu'on aurait pu gérer ça différemment, quoi. Donc une expérience assez traumatisante, hein, quand même.
Avant de sortir de l'hôpital, moi j'étais resté 3 mois, donc j'avais la barbe qui avait poussé et les cheveux longs. Donc j'avais dit avant de sortir, je voudrais aller chez le coiffeur. Et quand je suis arrivé chez le coiffeur, je lui ai demandé ma carte bleue, je me rappelais plus du numéro. C'est incroyable, hein.
Après, j'étais hospitalisé chez les adultes, de mon propre gré. Et c'est là qu'un psychiatre compétent, pour une fois que j'ai eu, il m'a dit, vous allez aller au Pain en Mauges, en fait, c'est une clinique spécialisée en psychiatrie, tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment reprendre du poil de la bête, quoi. Ça a été le début vraiment du rétablissement, en soi, du processus de rétablissement.
Donc il y a quand même pas mal de solutions, le CATTP, l'hôpital de jour, l'hospitalisation à domicile, avant peut-être d'aller à l'hôpital, quoi.
J'ai pas gardé de traumatisme de l'hôpital parce que je me dis que c'était pour mon bien au final, mais bon, après, voilà. C'est pas l'idéal, les infirmiers manquent de temps, les psychiatres sont pas forcément toujours très à l'écoute, très, très objectifs et très professionnels. Ça manque de communication, tout ça.
Aujourd'hui, j'ai un psychiatre différent, ça se passe beaucoup mieux. Et en fait, j'aurais dû changer depuis longtemps. Je sais pas pourquoi, je suis resté avec la même psychiatre. Je sais pas, peut-être que j'osais pas. Elle était assez distante, assez froide, quoi. C'est ça qui me convenait pas. Je trouvais qu'elle manquait un petit peu d'empathie, quoi. Parfois, quand je lui parlais, elle bâillait. C'était un peu quand même gênant, quoi. Je sais que je suis pas forcément toujours intéressant, mais si on peut éviter, des fois, de le faire, ça serait pas mal.
Je dirais aussi peut-être les activités aussi, mais le plus d'activités thérapeutiques, ouais. En place, même si rien que du sport une fois par semaine ou je sais pas, pendant les hospitalisations, parce que moi j'avais pas trop d'activité pendant que j'étais hospitalisée.
Et je pense qu'ils sont de bonne volonté, mais il manque de personnel, il manque de temps. Et je pense qu'il n'y a pas assez d'ouverture sur l'extérieur.
Maintenant, on pense qu'il faut mieux soigner les gens en dehors de l'hôpital, dans la ville. Ce qui paraît évident, parce que comme ça ils ont un rapport à la société, qu'en les isolant, ça renforce leur mal-être.
C'est ça aussi qui manque à l'hôpital, je pense, c'est pouvoir se réunir, se rencontrer, être dans une démarche un peu plus collective. Parce que là, c'était vraiment très individualisé, quoi.
C'est plutôt pas l'hôpital que je condamne, c'est la façon dont on s'en sert. Mais je pense que maintenant, on devrait réfléchir à plutôt trouver des lieux intermédiaires. Ça coûte très cher à la sécurité sociale, mais malheureusement, on n'a pas le personnel en France. Hein. Il manque d'infirmiers dans tous les domaines, encore plus en psychiatrie. La psychiatrie, c'est le dernier maillon de la chaîne en France du point de vue des services des hôpitaux. C'est là qu'on donne le moins d'argent. C'est connu, c'est le parent pauvre de l'hôpital, hein, la psychiatrie. Je sais, par exemple, la défenseuse des droits en France, là, qui s'occupe bien des prisons, des hôpitaux, puis je ne sais plus quoi encore, elle trouve ça inadmissible. Hein. Moi, je fais beaucoup de parallèle entre la prison, parce que c'est un lieu fermé, hein, faut bien voir. Hein. Parce que dès qu'on est enfermé, on sent la pression. Hein, on le déshumanisait. Hein.
Aujourd'hui, je me sens mieux. C'est quand même un peu comme tout le monde, quoi. Il y a des hauts et des bas, quoi. Mais il y a quand même plus de hauts. Je pense que je me prends un peu mieux en charge. Je me connais mieux aussi. Donc ça aide aussi.
Bah aujourd'hui, tout va bien. Je touche du bois. Non, mais tout va bien. Après, je ne suis pas à l'abri d'une rechute, je le sais. Hein. Mais pour l'instant, je prends soin de moi. J'ai une hygiène de vie assez régulière. C'est-à-dire que le sommeil, pour moi, c'est très important. Si je manque de sommeil, c'est comme ça que je rechute. Donc, ouais, c'est vraiment les signes précurseurs de la crise. Donc, du coup, je suis hyper vigilante à ça. Et puis, je pense qu'aussi, le sport m'a beaucoup aidée, mine de rien, à me canaliser, à mieux gérer mes émotions aussi. Parce que, pas toujours facile de gérer ses émotions quand on souffre de troubles psychiques.
Je me sens mieux maintenant qu'avant. Ouais. Puis en vieillissant, on pense plus de recul par rapport à sa maladie et on attache moins d'importance aux choses.
C'est rassurant aussi pour moi de me dire que finalement, ça fait 12 ans que j'ai pas été hospitalisée.
Moi, je dirais qu'on sous-estime le potentiel humain de se remettre en forme.
Ça fait une dizaine d'années que j'ai pas été hospitalisé. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que si j'allais moins bien, je ferais tout pour rester chez moi et pas aller à l'hôpital.
l'hôpital ? J'espère que je n'y retournerai pas.
J'ai les yeux qui pleurent, ils gesticulent de peur. Dans l'axe des vestibules, de fous dans leurs cellules. Je fais du rameur dans une mer de larmes. Les muscles jetant de sueur en ont perdu leur charme. J'ai les yeux qui meurent, ils n'ont plus de chaleur. Attirant à l'allure d'une amande, je me prends du métisme de l'aimant. Jamais vraiment face des trous, gravé dans le marbre beaucoup. Un arbre surplombe une tombe, un homme dans son ombre y tombe. Un arbre surplombe une tombe, un homme dans son ombre y tombe. J'ai les yeux qui ruissellent de couleur, des accès pémettes de douleur. Sans dessus, dessous le sel, le goût du sang sans son essai. J'ai les yeux qui disent adieu aux prunelles de mes antennes. Par un feu d'artifice fastidieux, pelle naturelle de ma fontaine. En d'autres termes, larmoyant, se termine l'oraison pour ma raison. Verser une goutte et prier aux croyants, ce Christ en prodoute et a raison. Verser une goutte et prier aux croyants, ce Christ en prodoute et a raison.
À suivre, épisode 4, les pilules pullulent.
Quand j'ai été à ma première hospitalisation en 96, justement, je ne connaissais pas du tout les médicaments, j'avais jamais pris de médicaments.
J'ai déliré pendant mon séjour en Espagne et directement après, j'ai été transférée en hôpital psychiatrique. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à prendre le traitement.
J'ai le traitement depuis 2015, après un an que j'étais rentrée en ESAT.
Médicaments.
Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit.
On reconnaît une société à la façon dont on traite les fous.
Pendant que les psychoses,
pendant que les psychoses,
les pilules pullulent.
Il n'y a pas la folie d'un côté, puis l'intelligence de l'autre. Un type qui n'est pas fou du tout, c'est plutôt louche. C'est une somme de folie plus grave.
Une série du GEM, le nouveau cap, groupe d'entraide mutuelle. Épisode 4. Antipsychotique.
Tranquillisant.
Hypnotique.
Antidépresseur.
Anxiolytique.
Thymorégulateur.
Neuroleptique.
Somnifère.
Correcteur.
Antipsychotique.
Somnifère.
Hypnotique.
Neuroleptique.
Tranquillisant.
Correcteur.
Antidépresseur.
Neuroleptique.
Thymorégulateur.
Hypnotique.
Correcteur.
Neuroleptique. Julie, Ingrid et Christophe, comment avalent-ils la pilule ?
J'ai vu un psychiatre, il m'a mis un traitement. En fait, il n'est pas lourd, mais c'est un traitement que j'avais du mal à le supporter au départ. Du coup, je faisais des malaises, j'étais fatiguée, je dormais beaucoup, j'étais pas bien.
On m'a donné un traitement le soir avec une injection, je ne savais pas ce qu'on m'avait donné. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, j'avais une mentalité de petite fille de 5 ans, quoi. Et les médecins ont dit à mes parents, ça fait comme un grand miroir qui s'est brisé, elle mettra des années avant de se reconstruire.
Et au début, je dormais très souvent parce que le temps qu'ils ajustent le traitement, j'étais très fatiguée, je dormais quasiment toute la journée, hein. Quand j'étais hospitalisée la première fois. Et puis au fil du temps, j'ai apprivoisé ma maladie en quelque sorte.
Mon psychiatre, il m'a dit, je vais vous proposer d'aller à Saint-Jacques pour essayer de voir votre traitement, si vous le supportez ou pas. Et en fait, on a travaillé dessus. J'ai dû rester 3 mois. Et à force, on voyait que je le supportais en fait.
Je pense que si on m'a autant changé de traitement, si on a essayé différents traitements, c'est que j'ai été aussi sujette à, vu mon hypersensibilité, à différentes pathologies.
Je suis passée par plein de traitements différents, parce que j'ai eu plusieurs médecins psychiatres et du coup j'ai énormément de traitements.
Classe pharmacothérapeutique, antipsychotique, lithium, code ATC, N05AN01, N, système nerveux central.
Moi, j'ai du Teralite, j'ai aussi du Zyprexa, j'ai du Loxapac.
C'est un médicament qui s'appelle l'Epticure, qui évite que j'ai des gestes brusques. Et l'autre, c'est Apaprazole. Ça, c'est pour canaliser mes nerfs, en fait.
L'Abilify, maintenant, il joue sur les humeurs, du coup. Et le Xeplion 75, il joue sur la schizophrénie.
Je prends du Plaquenil, deux comprimés, le fameux hydroxychloroquine du professeur Raoult qu'on m'a donné. Mais moi, c'est pour le lupus parce que c'est pour les défenses immunitaires. Je prends un Exprime pour les douleurs. Un Akineton, ça, c'est pour les effets secondaires. Et j'ai dit Olanzapine aussi.
Eh, vous saviez pas, lors de la prise d'Olanzapine.
Olanzapine aussi le soir.
Les patients âgés souffrant de démence peuvent présenter un risque vasculaire cérébral, une incontinence urinaire, des chutes, une extrême fatigue, des hallucinations visuelles, une augmentation de la température corporelle, une rougeur de la peau et des troubles de la marche. Des décès ont été rapportés dans ce groupe spécifique.
Et quand j'ai eu des problèmes dans ma vie privée et privée, j'avais du Taralène à prendre pour dormir. Et un petit cachet aussi, mais je ne me rappelle plus du nom.
J'ai un correcteur, parce que si je ne prends pas ce correcteur-là, en fait, ça fait l'impression comme si mes os, ils étaient tout broyés, quoi. Tellement ça peut être puissant sur les douleurs.
J'ai du Zyprexa aussi, qui m'a fait prendre beaucoup de poids, quand j'étais au lycée, du coup. J'ai pris aussi du Deroxa, du Zolpidem, du Zopiclone. Et là, j'ai le Tertian si besoin. Et l'été dernier, j'en ai pris du coup pendant une courte période parce que ça n'allait pas très bien. Et ça m'a fait une allergie au soleil. J'étais sous antihistaminique pendant un mois. Et dès que je m'exposais au soleil, en fait, ça faisait des grosses démangeaisons, des crises de démangeaisons. Enfin, c'était hyper compliqué à gérer parce que je suis partie en vacances à cette période. Donc...
J'ai eu aussi beaucoup de gens en prennent encore du Tertian. On m'a arrêté complètement le Tertian et même sur mon dossier médical, c'est marqué qu'il ne faut pas me donner de Tertian parce que ça me faisait plafonner. Les yeux, ils vont vers le ciel et puis même si vous regardez en bas, vous voyez pas vos pieds, quoi. Moi, ça m'arrivait surtout le soir. Et des fois, ça m'arrivait après manger, pof, je plafonnais. Ça a été très handicapant.
Allergie de la peau, caillots sanguins veineux, anomalie de certains tests de laboratoire, sensation de vertige, sécheresse de la bouche, troubles de la vue, somnolence, anxiété, troubles de l'humeur, indifférence, tremblement, prise de poids.
Des fois, j'ai du mal à dormir la nuit et je commence à m'endormir vers 4-5 heures. Et du coup, j'entends pas du tout mon réveil à partir de 7h15. Donc je me lève, des fois il est midi et demi. Conduire, logiquement, j'ai pas le droit, mais le docteur il m'a dit que c'était bon. Je peux m'endormir au volant, en fait. Et c'est là, il m'a dit, s'il y a un matin que vous vous sentez réellement fatigué, vous prenez le bus.
Il y a eu les tremblements aussi. Certains, ça me faisait des impatiences, ça me faisait trembler tout le corps.
Si je parle beaucoup longtemps, je vais avoir la bouche qui va être vite fait sèche.
Moi, je sais que je bois énormément, énormément d'eau. Parce que les médicaments peuvent donner la bouche pâteuse. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui prennent des médicaments pour justement la bouche pâteuse, la salive et tout ça et tout ça.
Une boîte de 10 patchs, des petits ronds, là, c'est 25 euros. J'en ai eu. Mais je l'ai arrêté parce que c'est pas pris en charge par la sécurité sociale.
Moi, plutôt que de prendre ça, je préfère boire plus d'eau.
Je ressentais plus d'émotions quasiment. J'étais comme si j'étais vide d'émotions en fait aussi. Sinon, il y a la fatigue aussi. Il y en a qui me fatiguaient énormément. Le Zyprexa, ça ouvrait l'appétit. Je mangeais du matin au soir. Je mangeais tout le temps, constamment. Si je pouvais manger tout le temps, je l'aurais fait. Et du coup, j'ai pris beaucoup de poids avec celui-là.
Je suis très gourmand. Je pense que c'est pas le traitement qu'il me fait. En fait, c'est dans ma nature.
Je sais pas si ça vient des médicaments ou quoi, mais j'ai très mal aux articulations. Ça peut venir des épaules, au niveau des genoux, des pieds.
J'avais un antidépresseur et j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir l'arrêter définitivement. Mais j'ai réussi à l'arrêter depuis 2-3 ans maintenant. Et j'en suis super contente parce que ça a été comme un combat pour l'arrêter. Ouais, ça a été très difficile. Ouais. Il y avait énormément de traitements différents. Et du coup, je pense que aujourd'hui, si je suis stabilisée, c'est grâce à mon traitement aussi, que je prends l'injection tous les mois. Parce que je trouve que c'est un confort de vie de ne pas avoir pensé à prendre de traitement tous les jours, en fait. Et je trouve que aussi ça joue sur la fatigabilité, c'est-à-dire que depuis que j'ai mes injections, je me sens moins fatiguée quand même que les traitements qu'on prend tous les jours en cachet, quoi. Quand je fais mon injection le matin, par exemple, l'après-midi, je fais une sieste parce que je me sens fatiguée. Mais le lendemain, ça va nickel. Hein. Le lendemain matin, c'est reparti, quoi. C'est tous les mois, j'en ai une dans chaque bras. J'ai des indurations à force. C'est le produit, pas qui se stocke, je dirais, mais qui fait des petites boules. Et du coup, en fait, j'ai une crème à mettre pour ça. Au début, je m'étais un peu inquiétée quand j'avais vu ça. On m'avait pas trop prévenu que ça pouvait faire ça, et du coup... maintenant, je n'ai plus trop d'induration, c'est vrai que j'ai plus trop ça, et du coup, c'est plutôt cool, ouais. J'ai mis énormément de temps à accepter ma maladie aussi, puis le traitement aussi, mais j'ai toujours pris quand même, parce que je savais que ça faisait du bien. Au bout d'un temps, ça allait quand même finir par fonctionner.
Au départ, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter.
Et surtout, gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
Si on m'enlève mon traitement, je ressens plus le besoin de manger, je ressens plus le besoin de dormir et j'ai l'impression d'avoir une grande force. Wow, je pourrais déplacer des montagnes, quoi. Je pourrais faire des choses un peu surnaturelles, quoi.
Ça m'est arrivé une ou deux fois de pas le prendre. Et j'avais vraiment peur que je revenais impulsif. Et c'est là mon psychiatre, il m'a dit, si vous oubliez un cachet le matin, logiquement, il ne faut pas le faire. Mais si vous l'oubliez, ce n'est pas grave, parce que votre corps, il est déjà habitué au traitement, en fait.
J'essaie d'être rigoureuse là-dessus, c'est important, parce que ce n'est pas des médicaments qu'on prend à la rigolade comme ça. Enfin, ouais, c'est des médicaments assez forts quand même, il faut faire attention. La dernière fois que je l'ai arrêté, c'était quand, genre, 18 ans, quelque chose comme ça. J'ai rechuté, j'ai dû retourner à l'hôpital psychiatrique et c'était encore pire qu'avant. J'ai fait une folie délirante et ouais, ça a été compliqué. J'ai arrêté deux fois. Rechute immédiate, ouais. En très peu de temps. C'est pour ça que maintenant, je ne peux plus arrêter.
En 2021, j'ai été hospitalisée. Mais ça faisait plusieurs semaines, même deux mois, que j'avais arrêté mon traitement. Je n'arrivais plus à dormir, à manger correctement. J'ai un souci, c'est que quand je ne dors pas, c'est comme si on m'envoyait des bouffées d'adrénaline. De l'adrénaline en puissance, en puissance, en puissance. Et du coup, mon cerveau, il part en vrille et je commence à faire du tout et du n'importe quoi. C'est moi qui n'arrêtais pas de leur dire « je veux être hospitalisée, je veux être hospitalisée ». J'ai carrément fait venir les pompiers, la police, c'était le bordel là-dedans chez moi. Ils m'ont hospitalisée, malgré toutes les doses de gouttes, de médicaments qu'ils me donnaient, je dormais pas. Je faisais du sport dans ma chambre. Vous auriez mon traitement à moi, là, le traitement que je prends moi, vous seriez HS. Vous.
Parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.
Je trouve que c'est très important d'avoir des bons rapports avec son psychiatre. Moi, j'ai changé énormément de psychiatre tout au long, j'allais dire de ma carrière, mais bon, c'est pas une carrière vraiment. Tout au long de ma vie.
J'ai eu beaucoup de psychiatres différents. J'ai dû en voir peut-être une douzaine en toutes mes hospitalisations, tout ça. Et là, j'ai une psychiatre qui m'aide pas vraiment, je dirais, qui n'est pas énormément dans l'écoute et c'est pas toujours facile avec elle, mais je me dis que je la vois une fois tous les deux mois et que donc ça va, mais j'aimerais qu'elle soit plus à mon écoute, ouais. Je la vois 5 minutes. Pour le traitement, ouais, c'est ça en fait. La psychologue, c'est, je la vois une fois toutes les 3 semaines, du coup, et c'est une, à peu près 40-45 minutes, à peu près. Et elle, pour le coup, bah, elle est très à l'écoute et pas dans le jugement, donc c'est aussi positif, quoi.
Quand on est aidé, c'est vachement intéressant parce qu'on peut travailler sur soi-même et arriver à un but de se canaliser, en fait.
Mais ça permet aussi d'évacuer ce qu'on ressent aussi, les émotions et... Parce que la parole, c'est important.
Il ne faut pas se dire qu'on est des cobayes, parce que justement, la science avance. Il vaut mieux être hospitalisé une petite semaine pour qu'on soit encadré par des infirmières et des médecins qui vont nous surveiller pour voir comment le traitement agit sur nous. Avec les années d'expérience et tout ça, comme j'ai beaucoup ingéré de médicaments différents et tout, au fur et à mesure des années qui se sont passées, on a rajouté des médicaments. Parce que mon empathie, mon hypersensibilité, c'est accrue. Donc c'est moi qui connais bien ma maladie, qui connais bien mon corps, qui connais bien ma pathologie. Et comme je connais bien les médicaments, je dis, bah là, il faut augmenter ce médicament-là ou il faut donner ce médicament-là en plus.
Je pense que c'est aussi dû à ma connaissance de ma maladie aussi que j'ai pu trouver le bon traitement. Enfin, quand je sens que je vais moins bien, par exemple, c'est moi de moi-même qui vais prendre le traitement qu'il me faut pour aller mieux, en fait. C'est celui que j'ai maintenant qui me permet de me stabiliser, jusque le psychiatre en soi.
Dès que je sens que ça commence à monter, j'ai trouvé les astuces, en fait. Déjà, mon traitement, je le prends normalement. Et quand je commence à bouillir, je sors, je prends un bol d'air, un verre d'eau, je tire sur ma cigarette électronique. Ça m'aide beaucoup, en fait.
Le sport, ça me fait énormément de bien. Ça me permet de mieux canaliser mes émotions aussi, parce que j'avais un peu de mal avec ça avant. C'est sûr que des fois, j'aimerais faire plus de choses dans ma journée. Au milieu de journée, des fois, je suis fatiguée et que ouais, ça me prive de ça aussi, mais... Mais de moins en moins, quand même, j'ai marqué de moins en moins.
Je pensais que, voilà, avec tous les efforts que j'avais faits et tout ça, on l'aurait complètement arrêté. Et c'est là où mon psychiatre il m'a dit non, ça ne se passe pas comme ça, en fait. Après, comme il m'a dit, on pourrait le diminuer. Et en fait, il m'a dit après, votre corps serait plus habitué à avoir la même dose. Donc, est-ce que ça ne va pas recommencer comme quand vous avez commencé à prendre ce traitement-là. En fait, lui, il pense que c'est mieux qu'on reste sur la même dose pour l'instant et voir plus tard. Ma maladie, je ne me plains pas, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des maladies plus graves que moi, en fait. J'ai eu de la chance... Ça pouvait être plus grave que ça. En France, on a de la chance d'avoir un système de sécurité sociale. Il faut se dire qu'il faut toujours quand même d'aller en avant, pas aller en marche arrière, en fait. Il faut surtout se dire dans la tête, ouais, voilà, maintenant je suis comme ça, j'y peux rien. Mais il faut avancer, il faut se battre.
Ce serait bien qu'on ait un remède qui permette de guérir les maladies psychiques, même toutes les maladies psychiques, ce serait franchement génial.
Je voudrais partir au loin. Je voudrais partir au loin.
Épisode 5, Gère dans un courant d'air. C'était Pendant que les psychoses, une série documentaire de l'atelier radio du GEM Le Nouveau Cap. Un grand merci à toutes les personnes qui ont témoigné. À Malo et Olivier Noël pour la musique, à la chorale de 4 heures, à Élise pour le visuel, à Clémence et tout le GEM Le Nouveau Cap. Merci enfin à Jet FM et la Fondation de France pour leur soutien. Si vous souhaitez organiser une écoute de certains épisodes et un échange avec le groupe dans votre structure médico-sociale, culturelle ou scolaire, n'hésitez pas à contacter le GEM Le Nouveau Cap. Demain, vous pourrez entendre l'épisode 5 sur l'errance thérapeutique et l'épisode 6 sur le rapport au travail. Vous pouvez également retrouver tous les épisodes sur Castopod en tapant Jet FM pendant que les psychoses. Bonne soirée sur Jet.